Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter le récit des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris avec un nouvel invité en deuxième partie d'émission. Cette affaire nous renvoie à une pratique qui consiste à faire voter des fantômes et des morts, et pas une poignée, non, plus de 3000, chiffre donné par les enquêteurs. Il s'agissait de Parisiens inscrits sur les listes électorales du 5e, pour la plupart depuis 1989, dont les adresses situées dans des endroits aussi insolites qu'inexistants dans l'arrondissement n'ont pas permis, par définition, de les retrouver. Et pourtant, cela ne les a pas empêchés de participer au vote pendant plus d'une décennie. Bien sûr, dans ce théâtre d'ombre, on votait pour Monsieur Tibéri. Depuis les premières révélations sur l'affaire, par le Canard enchaîné en 1997, on connaît ces pratiques utilisées à la fois pour les municipales et pour les législatives, dans une circonscription située en plein cœur de Paris, non loin des lieux de pouvoir de la République. Et pourtant, malgré une enquête au pénal pour fraude électorale, l'ancien député-maire de l'arrondissement, Jean Tibéri, a continué d'exercer des mandats et fonctions politiques pendant plus de 10 ans, clamant au passage qu'il ne savait pas pour les faux électeurs et qu'il n'a jamais participé de quelconque manière que ce soit à des manœuvres électorales douteuses. Alors, quels sont les éléments qui permettent d'affirmer qu'il y a bien eu fraude électorale dans le 5e arrondissement de Paris? Quelles ont été les pratiques opaques mises en place par le clan Tibéri pour gagner à tout prix les élections? Qui sont ces 3000 fantômes qui hantent depuis des années les rues de l'arrondissement? Et enfin, où en est la justice dans cette affaire très sensible, dès lors qu'elle nous renvoie à des us et coutumes, disons, bananières? Notre invité aujourd'hui, Hervé Liffrand, journaliste au Canard enchaîné qui a enquêté sur l'affaire. Vous entendrez également le reportage de Gaylor von Wimmersch qui s'est rendu il y a 2 ans au conseil municipal du 5e arrondissement. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius et Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Dans notre système jacobin, Paris concentre tous les lieux de pouvoir. L'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat. La capitale qui porte bien son nom est donc l'objet de beaucoup d'ambitions politiques. Être élu à Paris, c'est rester proche des grandes décisions. Depuis 1975, la ville est devenue une commune et un département, les deux à la fois, mais avec un point commun. Un système immobilier dont les prix, autant pour la propriété que pour la location, détruit la mixité sociale, que ce soit sous la droite ou sous la gauche. Quoi qu'il en soit, devenir maire de Paris confère un grand pouvoir et une place à part sur l'échiquier politique du pays. Quand un chef d'État vient en visite officielle, il fait un détour par l'hôtel de ville et le maître des lieux est traité avec quasiment autant d'égards que le tout-puissant visiteur. Le premier à exercer cette fonction par le suffrage universel, c'est Jacques Chirac, à partir de 1977. Avec lui, l'hôtel de ville devient le centre de gravité de toute la Chiracie et se transforme en tremplin pour les batailles politiques à venir, présidentielles en tête, bien sûr. Dans le 5e arrondissement de la capitale, où se logent les écoles et les sites parmi les plus prestigieux de France et de Navarre, comme Polytechnique, Normale Sup, le Collège de France, les lycées Louis-le-Grand et Henri IV qui se prennent toujours pour Oxford et Cambridge version potache, la Sorbonne et le Panthéon, l'hôpital du Val-de-Grâce, où les puissants de ce pays viennent se faire soigner, les cinémas d'art et essai qui passent les films ouzbeks les plus hermétiques pourvu qu'ils soient hermétiques, ces théâtres comme celui de la Huchette où l'on joue des coudes pour s'asseoir, ces vestiges romains car c'est le plus vieux quartier de Paris. La mélange de branchitude intellectuelle et de bourgeoisie endormie dans un espace où les loyers prohibitifs génèrent autant de cohortes de tanguis que d'improbables colocations, ce qui est le cas dans pratiquement tous les arrondissements de Paris, cela dit. Et bien c'est là que règne un fidèle parmi les fidèles de la Chiracie, Jean Tibéri, natif du 5e, député de la circonscription depuis 1968. Il est l'homme qui a permis à Jacques Chirac d'être élu, puis réélu comme maire en l'accueillant sur sa bienveillante et bien votante liste du 5e arrondissement. Il est aussi celui que le grand Jacques surnomme affectueusement l'ami Jean, un lieutenant aussi indispensable qu'efficace. Jean, le disciple que le maître aimait, c'est bien connu. Après sa cuisante défaite à la présidentielle de 1988, Jacques Chirac ne trouve rien de plus normal que de mettre à contribution son ami Jean Tibéri pour faire un coup qui doit lui permettre de redorer son image, de refaire de lui un gagneur. C'est ce qu'expliquera des années plus tard devant les juges le conseiller vert à la mairie de Paris, Yves Contasso.
En 1989, Jacques Chirac a réuni ses adjoints et les maires d'arrondissement pour leur expliquer qu'il voulait faire le grand chelem au municipal. Pour gagner partout, il a décidé de transférer des électeurs des arrondissements qui avaient des grandes réserves à droite vers ceux qui étaient susceptibles de tomber à gauche. Le 5e, mais aussi le 20e, le 19e, le 18e, le 11e et le 3e. Une opération qu'ils avaient baptisée « transfusion sanguine ».
Ainsi naît l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris. Certes, le système devait probablement exister avant, mais il prend toute son ampleur à partir de 1989. Cette opération consiste à faire inscrire sur les listes électorales du 5e des militants RPR qui résident dans d'autres arrondissements de la capitale et auxquels on va donner de fausses adresses. On fera de même dans les autres arrondissements considérés potentiellement gagnables par la gauche. Un procédé parfaitement illégal et donc pénalement répréhensible. Déjà en 1989, le Canard enchaîné flaire l'affaire et dénonce des inscriptions illégales d'électeurs dans le 3e arrondissement, tenu à l'époque par la dynastie Dominati, que le socialiste Pierre Edenbaum délogera pour très longtemps, puisqu'il est encore maire de cet arrondissement agréable et bobo, ce qui n'est pas forcément contradictoire. Mais cette combine des faux électeurs va perdurer pendant près de 10 ans. Et c'est ainsi qu'au soir du 19 mars 1989, Jacques Chirac est réélu maire de Paris, réalisant le grand chelem grâce à son succès dans tous les arrondissements parisiens. Avant que quelques années plus tard ne sonne une autre grande date pour toute la Chiraquie, celle du 7 mai 1995.
Il est 20h. Voici le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République.
5e président de la 5e République. Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés.
Le nouveau président de la République est donc Monsieur Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. C'est la joie, c'est la liesse, on peut le comprendre. Avenue d'Iéna, au siège du quartier général de Monsieur Jacques Chirac. Je vous laisse écouter l'ambiance.
Jacques Chirac devenu président, Jean Tiberi est élu maire de Paris dans la foulée. Dans son fief du 5e, il ne lui faut qu'un tour, 57% des voix, élus dans un fauteuil, comme on dit. Mais quelques mois plus tard, les premiers soupçons de fraude apparaissent et ils font l'objet d'une première plainte. Dans le 3e arrondissement de Paris, celui de Jacques Dominati, où les listes électorales bien trop arrangeantes ne pouvaient mener qu'à la victoire du candidat aux couleurs RPR-UDF. Dans le 5e, malgré les rumeurs sur les étalages des marchés et les discussions au comptoir des cafés du quartier, l'affaire semble se tasser. Jusqu'au 21 avril 1997, le jour où Jacques Chirac réalise un chef-d'œuvre d'incohérence politique en décidant la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui provoque mécaniquement l'organisation de nouvelles élections législatives au mois de mai suivant. Quelques jours après l'annonce de la dissolution et alors que Jean Tiberi se prépare à refaire campagne pour conserver sa deuxième circonscription de député à Paris, le Canard enchaîné jette un pavé dans la mare au canard comme il se doit en révélant l'existence de faux électeurs. Dans son édition du 23 avril 1997, le journal satirique titre « Comment le clan Tiberi a dopé les listes électorales dans son fief parisien ». Renseigné par un haut fonctionnaire, l'hebdomadaire affirme qu'entre 3000 et 4000 électeurs sont inscrits illégalement par le RPR dans le 5e arrondissement, et ce depuis des années. Pour illustrer à quel point cette fraude massive s'est banalisée, les journalistes s'appuient sur le témoignage d'un locataire présumé RPR de l'office HLM de la ville de Paris.
Je n'ai jamais habité le 5e arrondissement, mais un jour, un collaborateur de Jean Tiberi m'a appelé pour me dire qu'on allait m'y inscrire sur les listes électorales. Il m'a expliqué qu'il agissait ainsi parce que la mairie m'avait trouvé peu de temps auparavant un appartement HLM dans le 15e arrondissement. Face à mon étonnement et mes questions, il m'a juste répondu « Ne vous inquiétez pas, soyez serein, on s'occupe de tout ».
Votre bulletin de vote contre un logement, simple comme bonjour. L'inscription d'électeurs qui habitent dans d'autres arrondissements reste l'une des plus vieilles ficelles de la fraude électorale, mais quand certains l'utilisent de manière artisanale, Jean Tiberi, lui, en fait une méthode à grande échelle. Par la suite, les enquêteurs vont découvrir que ce sont des centaines et des centaines de personnes qui viennent voter dans le 5e, un arrondissement dans lequel ils ne vivent pas. Parmi eux, la majorité sont des militants RPR qui font leur devoir, en quelque sorte. Mais il y a aussi beaucoup d'autres individus de tous bords politiques pourvu qu'une inscription sur les listes électorales soit synonyme d'obtention d'un logement social, d'une place pour un enfant, crèche ou encore, dans certains cas, d'un emploi à la ville de Paris. Et puis il y a bien sûr la famille, la très grande famille Tiberi, les cousins, les cousines, l'épouse Xavier, ça fait du monde. Sur la base de ces accusations, deux plaintes sont déposées. L'une par le candidat écologiste aux législatives, Yves Rémion, pour manœuvre frauduleuse de nature à altérer la sincérité du scrutin, et l'autre par Lynn Cohen-Solal, qui entend remettre en cause le résultat du vote et dénoncer une atteinte grave à la démocratie en plein cœur de Paris. Le 1er juin 1997, les socialistes l'emportent aux législatives. Jacques Chirac a copieusement scié la branche sur laquelle il était assis, entraînant les élus RPR dans une défaite que forcément il n'avait pas vu venir. Jean Tiberi, lui, passe à travers les gouttes, mais il n'est réélu député qu'avec 2525 voix d'avance. Face aux militants qui se sont rassemblés à la mairie de Paris et face au micro des journalistes, il tient à dénoncer les manœuvres de ses adversaires, des coups bas qui n'ont heureusement pas entaché la confiance que lui portent les Parisiens.
Je suis l'élu du quartier latin et chacun sait les liens profonds qui m'unissent au 5e et 6e arrondissement. J'en suis d'autant plus heureux que j'ai été la victime depuis plusieurs mois d'attaques et de calomnies inqualifiables. Les électeurs du 5e et 6e arrondissement qui me connaissent depuis fort longtemps m'ont à nouveau exprimé avec leur confiance la reconnaissance de mon intégrité et je les en remercie sincèrement.
Une intégrité à laquelle la justice a beaucoup de mal à croire. Deux semaines plus tard, en effet, les deux plaintes déposées sont jugées recevables et une information judiciaire est ouverte. L'enquête commence, elle sera difficile mais riche en surprises et rebondissements.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Jacques Chirac, élu président, c'est Jean Tiberi qui est devenu le maire de Paris. Le personnage est onctueux, courtois, cardinaliste, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et c'est ainsi qu'au mois de décembre 1997, il annonce, vertueux, un grand ménage des listes électorales. 170 000 personnes, soit un électeur sur sept, sont concernés. Du jamais vu dans la capitale. Pourtant, selon M. Tiberi, il ne s'agit que d'une simple régularisation.
Cette année, nous avions, à l'occasion de l'envoi de nouvelles cartes électorales, pensé qu'il était bon sur tout Paris, dans tous les arrondissements, de vérifier la présence ou pas des gens inscrits sur les listes électorales, parce que des gens habitent un arrondissement et sur plusieurs années quittent l'arrondissement pour aller ailleurs dans Paris, mais souhaite rester pour des raisons qu'on comprend.
Des raisons qui en laissent beaucoup sceptiques et qui ne convainquent pas l'adversaire socialiste du député maire du 5e arrondissement, Lynn Cohen-Solal. Après un long travail d'enquête et d'épluchage des listes électorales, elle tombe sur certaines incongruités qui vont bien au-delà de la simple régularisation et qui durent depuis des années. Par exemple, dans le 5e arrondissement, il y a le cas de toute une famille d'électeurs inscrits sur les listes et dont le domicile est situé au 21 place du Panthéon, soit l'adresse de la mairie du 5e. A-t-on jamais vu une famille habiter dans une mairie, si ce n'est celle du maire? D'autres sont inscrits depuis 10 ans à des adresses qui n'ont jamais existé. La tentative de régularisation de Jean Tibéri apparaît donc comme un moyen de laver les écuries d'Augias avant que les enquêteurs ne s'y intéressent de trop près. Et il n'en faut d'ailleurs pas plus pour que dans les jours qui suivent, les gendarmes qui s'occupent de l'affaire viennent perquisitionner les mairies du 5e et 6e arrondissement. Le 20 février 1998, presque 6 mois après le début de l'affaire, le Conseil constitutionnel, première juridiction à délibérer sur l'épineux dossier, rend sa décision. À la question « L'élection législative de 1997 dans la deuxième circonscription de Paris a-t-elle été acquise grâce à la fraude électorale ?» Sa réponse est la suivante.
Considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'enquête, que dans le 5e arrondissement de Paris, un nombre important d'électeurs sont domiciliés dans les logements sociaux de la ville de Paris, alors qu'ils sont inconnus des organismes gestionnaires de ces immeubles. Que dans certains cas, il s'avère que ces personnes résident en réalité dans des logements de la ville de Paris, situés dans d'autres arrondissements. Qu'il résulte également de l'instruction que ces électeurs sont domiciliés dans des bâtiments inexistants ou insusceptibles d'accueillir le nombre d'électeurs inscrits, et qu'un nombre anormal d'électeurs est domicilié dans les appartements de la mairie du 5e arrondissement. Que les particularités qui s'attachent au changement de domicile dans les grandes villes ne suffisent pas à expliquer ces constatations. Qu'au surplus, l'instruction a révélé que des certificats d'hébergement de complaisance avaient été établis par des personnes liées aux candidats élus.
Après avoir dressé la liste des irrégularités constatées par l'enquête, liste à laquelle s'ajoute le fait que plusieurs centaines de cartes électorales ne sont pas parvenues à leur destinataire, le Conseil constitutionnel conclut d'une manière pour le moins surprenante.
Considérant que le cumul de ces faits, graves et répétés, au sein du même arrondissement, est de nature à accréditer l'existence d'une manœuvre dans les conditions d'établissement de la liste électorale. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le nombre d'électeurs dont l'inscription peut être suspectée de fraude et qui ont voté au second tour du scrutin est sensiblement inférieur à l'écart des voix entre les candidats à ce tour, qui est de 2725 voix. La manœuvre en cause, aussi condamnable soit-elle, n'a pas pu dès lors inverser le résultat du scrutin.
En d'autres termes, élection truquée, oui, mais pas trop. D'ailleurs, seuls 800 faux électeurs sont retrouvés hors l'écart de voix au second tour et de 2725 en faveur de Tibéri. Ce n'est donc pas significatif pour le Conseil. Et c'est ainsi que Jean Tibéri garde son siège de député, bien aidé en cela par le code électoral qui stipule que ce n'est pas une mais 3 juridictions qui statuent sur les listes. Le pénal, qui punit la fraude si nécessaire après une enquête et un procès en correctionnel, le civil qui peut demander la radiation de l'inscription et le juge de l'élection, ici le Conseil constitutionnel, qui peut annuler un scrutin mais dont le rôle n'est pas de condamner qui que ce soit. C'est ce système dans lequel chacun de ces 3 juges intervient dans son champ de compétences qui explique en partie pourquoi l'évolution de l'affaire Tibéri devant la justice connaît bien des aléas. D'où aussi l'impression de piétinement pour l'opinion publique, alors qu'en vérité le dossier avance. Et grâce à la plainte pour fraude, le juge Chantal Perdry est saisi, l'enquête commence, ainsi que les poursuites pénales. Dans l'enquête pour fraude électorale, justement, malgré les embûches administratives et autres faits troublants qui freinent le dossier, la juge Chantal Perdry arrive au bout de 3 ans à faire tomber les masques. Après plusieurs perquisitions, les gendarmes ont fini par mettre la main sur des listings et du matériel informatique qui leur permettent d'estimer à près de 3000 le nombre d'électeurs inscrits illégalement sur les listes du 5e. Au fil des mois, l'enquête et l'audition de nombreux témoins révèlent que la femme de Jean Tibéri, Xavière, ainsi que la première adjointe à la mairie du 5e depuis 1984, Anne-Marie Affray, ont organisé la fraude aux élections municipales de 95 et aux législatives de 97. Elles sont toutes les deux mises en examen au mois de juillet 2000. Xavière Tibéri dément toute implication. Mais pour de nombreux journalistes, ce n'est qu'une question de temps avant que la justice ne découvre le poteau rose, comme en témoigne ce reportage en 2000.
À la mairie du 5e, on a parfois du mal avec les lois électorales. Sans la caméra.
Vous commencez pas à créer des problèmes. Désolé.
Vous appelez le président du...
Oui, bien sûr.
Par exemple, celle qui autorise la presse à filmer les scènes de vote. Ici, c'est le quartier général de Xavier Tiberi. L'épouse du maire de Paris le sait, si elle est filmée en train de voter, ce n'est pas comme personnalité politique, mais bien en tant que principal accusé de l'affaire des faux électeurs.
Voilà, Xavier Genova et Tiberi.
Cet après-midi, elle est convoquée au palais de justice. Plusieurs employés municipaux la désignent clairement comme le cerveau d'un système de fraude électorale. Sur les listes de l'arrondissement, des milliers d'inscriptions illégales ont été constatées. Certains témoins situent même le premier trucage en 78, dès la première élection de Jean Tiberi dans cette mairie.
Et parmi ces témoignages contre le couple Tiberi, il y a celui de Raymond Nancien. Raymond Nancien, c'est l'ancien secrétaire général de la mairie du 5e arrondissement de Paris. Il est entré en 1990. Pendant 10 ans, c'est un fonctionnaire zélé à la solde de l'administration Tiberi. Il fait ce qu'on lui demande dans l'intérêt du couple régnant et ne pose pas de questions. Mais lorsqu'il se retrouve en garde à vue, pris de scrupules, il raconte tout. L'organisation de la fraude, le rôle de Xavier et enfin les méthodes peu orthodoxes avec lesquelles le clan Tiberi dope le résultat des élections. Extrait de ses déclarations.
J'étais aux ordres de monsieur et madame Tiberi, je le confirme. J'ai été témoin de manœuvres qui peuvent s'apparenter à de la fraude électorale. Un jour, en entrant dans mon bureau, M. Tiberi m'a annoncé que si 10 électeurs étaient radiés, il était nécessaire d'en inscrire 8 nouveaux. J'ai compris à ce moment-là que Jean Tiberi refusait de nettoyer les listes électorales du 5e. Les certificats d'hébergement bidon ont permis pendant des années d'inscrire sur les listes du 5e des faux électeurs.
Grâce au témoignage de Raymond Nancien, les enquêteurs arrivent à remonter le fil de la fraude et surtout à mettre en lumière les pratiques du clan Tiberi. Au même moment, le maire de Paris réplique et parle de tentatives de déstabilisation et d'un coup bas orchestré par l'opposition. Pourtant, certains journalistes ont mis en lumière depuis quelques années les pratiques de monsieur et madame Tiberi. Et les enquêteurs, eux, ont désormais entre les mains des éléments accablants qui accréditent la thèse qu'une entreprise massive de fraude et de détournement de vote sévit depuis des années sur les scrutins du 5e. Dans cet inventaire électoral à l'après-Vert, on trouve... des procurations en rafale, par exemple. La maison de retraite du 5e, rue Hortelon, abritait plus d'électeurs que de pensionnaires. La veille des scrutins, des envoyés de la mairie venaient chercher des procurations au service de gériatrie et, décidément très serviable, la mairie appelait les familles des abstentionnistes pour leur proposer que des gens de confiance aillent voter à leur place. Des procurations de complaisance, en quelque sorte. Il y a aussi la méthode qui consiste à faire voter les morts. 35 personnes âgées de 105 à 114 et même 119 ans ont continué de voter pendant des années alors qu'elles étaient mortes et enterrées depuis bien longtemps. Des caravanes d'électeurs aussi. Les jours de scrutin, la mairie mobilisait une vingtaine de véhicules pour aller chercher les gens chez eux et les emmener voter pour Jean Tiberi, bien sûr. Il y a aussi les HLM. On y compte parfois plus d'électeurs que d'habitants avec des appartements où une quinzaine de personnes résident, genre appartement collectif soviétique. Et bien sûr, aucun d'entre eux n'y avait mis les pieds. En 2001, alors que la justice se rapproche de plus en plus du clan Tiberi et de sa citadelle imprenable, la mairie du 5e, et que Jean Tiberi est écarté du RPR, la présidente du mouvement de l'époque, Michèle Alliot-Marie, choisit comme candidat pour le remplacer au municipal à Paris, Philippe Séguin. Pour l'ami Jean, qui a tant œuvré pour le Grand Jacques, c'est la trahison. Voilà qu'il va devoir payer la facture de ses succès électoraux à l'odeur de soufre. Alors, il se lance à corps perdu dans une pathétique bataille pour rester maire de Paris, instaurant un duel fratricide avec Philippe Séguin, lançant la machine à perdre comme la droite française sait si bien le faire, offrant ainsi Paris aux socialistes. De retour dans sa mairie du 5e arrondissement, Jean Tiberi tente de tourner la page, mais la justice, elle, ne l'a pas oublié. Jean Tiberi est finalement mis en examen en mars 2005 pour manœuvre frauduleuse de nature à fausser la nature du scrutin. Le parquet général estime qu'à la vue des expertises, des témoignages et des commissions rogatoires, le dossier est suffisamment lourd pour conduire à un procès. Celui-ci s'ouvre 4 ans plus tard, le 2 février 2009, au tribunal correctionnel de Paris. On y retrouve les époux Tiberi, bien sûr, mais aussi la première adjointe, Anne-Marie Affray, le dénonciateur Raymond Nancien, et d'autres personnages qui jouaient un second rôle en ce temps-là à la mairie du 5e. Les débats sont houleux. Le procureur présente au juge une note, la seule signée de la main du maire, qui ordonne de renforcer l'efficacité de la fraude électorale. Pourtant, les époux Tiberi continuent de nier toute implication. À la sortie des audiences, Xavier Tiberi se présente face aux caméras des journalistes et affirme qu'il s'agit d'un complot avec de faux témoins.
On essaie de circonvenir les personnes avec qui je me suis bien entendu. C'est scandaleux, c'est une honte. On n'a pas à venir et dire, dites ceci, dites cela, faites ceci, faites cela. Parce que j'aurais pu le faire très bien et avoir autant de témoignages. Il faut avoir tous les témoignages que je voulais, mais là, on essaye de venir pour dire, dites ceci, faites ça. C'est la pression de la mairie de Paris sur les employés, non.
Une manœuvre politique, pour ne pas dire de basse politique, contre moi.
Madame, aussi bien que monsieur, n'arrive pas à convaincre grand monde. Trois mois plus tard, le 27 mai 2009, Jean Tibéri, alors député maire du 5e arrondissement de Paris, est condamné par le tribunal correctionnel à 3 ans d'inéligibilité, 10 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende. Sa femme Xavière à 9 mois de prison avec sursis, 5 000 euros d'amende et 2 ans de privation de vote. Le couple Tibéri et Anne-Marie Affray, elle aussi condamnée, font immédiatement appel. Ce qui permet à Jean Tibéri de conserver sa fonction de maire du 5e et de député. Lors de l'appel, en 2011, les avocats du couple déposent des questions prioritaires de constitutionnalité, ce qui a pour effet de retarder encore la procédure. Il faudra attendre le mois d'avril 2013 pour que l'arrêt rendu par la cour d'appel vienne confirmer les peines prononcées en 2009. Depuis, le 5e arrondissement de Paris est administré par une maire UMP, Florence Berthoud.
Dans les plis des rideaux se cachent les assassins, mais les plis de ton corps sont plus dangereux encore. Tu me prends par la main, tu promènes mes phalanges, et nous dérangeons les anges endormis sur ce chemin. Tu t'assois sur mon chapeau, tu n'écrases pas tes mégots. Tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le jacques. Bijou est dans la vis de l'escalier de service. Elle vient frapper à la porte de ma vie de cloporte. Et même si elle me propose ce que durent les roses, ben je troque mon bouquin pour le lit à baldaquin. Tu viens chez moi, tu m'enfumes, tu me traites de vieux légumes. Tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le jacques. Elle est de service, elle vient frapper toc 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 dans ma vie de cloporte. Dans mon petit licage, tu m'apportes des oranges avec cette allure étrange qui fait parler les voisins. Tu mets ton doigt sur l'œilleton, tu me traites de vieux crouton. Tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le jacques. Et sous les couvertures, j'alterne les lectures, un poème d'Edgar Poe avec celui de ta peau. Cette fois je fais ma prière et je fume la dernière au genou de mon bourreau en pleurant comme un veau. Tu t'assois sur mon chapeau, tu n'écrases pas tes mégots. Tu mets le feu à la chambre, tout est réduit en cendres. De ma vie de hibou, il ne reste rien du tout. Et pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le jacques.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Jean Tibéri et les fantômes du 5e arrondissement de Paris. Notre invité, Hervé Liffrand, journaliste au Canard Enchaîné. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fait partie des premiers journalistes et enquêteurs à chiffrer dans vos articles dès 1997 le nombre de ces faux électeurs. On va y revenir. Mais comment avez-vous eu vent de l'affaire?
Le Canard, effectivement, a été le premier journal. Enfin, nous avons découvert les faux électeurs. Personne avant n'avait découvert ces faux électeurs. Alors, comment on a eu vent de l'affaire? En fait, il faut remonter à une histoire un peu plus ancienne. En 1989, Le Canard avait déjà sorti une histoire de faux électeurs à Paris qui concernait toute une série d'arrondissements, le troisième arrondissement principalement.
Avec les Dominati.
Avec les Dominati, absolument. Mais aussi, et accessoirement, le 19e, le 20e, le 13e. Tout ça renvoyait à une, comment dirais-je, à l'échec de Jacques Chirac à la présidentielle de 88. Et pour rebondir, il y a eu une réunion à l'hôtel de ville à l'été 88, dans le bureau de Jacques Chirac, où il s'est posé la question de, il faut absolument que le maire réalise le grand chelem pour se remettre en selle. Et a germé l'idée dans quelques cerveaux de l'hôtel de ville de bourrer les urnes, ou plus exactement bourrer les listes électorales, en faisant une transfusion d'électeurs du 16e arrondissement, du 7e, du 8e, vers des arrondissements menacés. Et je me rappelle qu'on a découvert, nous, l'affaire, avoir eu au téléphone des gens qui habitaient avenue Foch et qui votaient dans des HLM du 20e arrondissement. Ce qui est quand même, voilà.
Bon. Bien sûr, on explique aux auditeurs qu'on allait puiser dans des arrondissements qui traditionnellement votaient pour les candidats gaullistes et néo-gaullistes.
Des arrondissements très chics, 16e, 8e, 7e, et on les transférait là-bas. Et donc on avait écrit, on avait fait une série d'articles sur le sujet. Et il y a eu d'ailleurs une instruction judiciaire qui aboutit à la condamnation de l'un des fils Dominati des années après. Et à l'époque, on m'avait dit aussi, ah oui, mais il y a aussi dans le 5e, etc. Mais dans le 5e arrondissement, ça n'avait pas de sens, parce qu'on se disait, mais 5e arrondissement, l'arrondissement de Jean Tiberi, il est élu avec largement, c'est pas un arrondissement menacé. On comprenait pas. Parce qu'à chaque fois, dans les autres arrondissements, c'était à la marge, hein, c'était pas des milliers et des milliers. Bon. Et comme on n'avait pas d'éléments supplémentaires, on en était resté là. Et en début 97, l'information nous revient une nouvelle fois, donc 8 ans plus tard, sur le thème, mais si chez Tiberi, c'est pas quelques dizaines, quelques centaines, c'est plusieurs milliers. Et comme la source était quand même bonne, et puis on avait aussi entendu dire que des gens comme Jacques Toubon, qui était maire du 13e, se plaignaient que des gens qui étaient dans ses HLM à lui votaient dans le 5e et pas dans le 13e, alors qu'ils étaient habités dans le 13e.
Et alors ça, c'est pour la méthode, d'accord, mais ce que voilà. Vous voulez me dire, c'est que les proportions dans lesquelles on a trituré tout ça étaient, alors dans le 5e arrondissement, ça dépassait tout. Plus,
voilà, ça dépassait tout. On était à plusieurs milliers faux électeurs pour un corps électoral qui était il y a à peu près une trentaine de milliers d'électeurs.
Qu'est-ce que ça veut dire, plusieurs milliers? Pour le coup, allons-y. Alors, combien?
Nous, on nous a dit plusieurs milliers. Et après, nous, on a cherché. On a cherché. Alors, comment on a cherché? On a commandé à la mairie de Paris le fichier des électeurs du 5e, comme tout électeur a droit à y avoir accès à ce genre de documents. Bon, on s'est débrouillé quand même pour qu'ils ne se doutent pas que c'était le canard qui allait enquêter, mais on a demandé, donc on a obtenu ce fichier. Nous a servi une bobine informatique vieille école très vintage qui faisait 40 cm de diamètre. Et donc après, il a fallu la transférer sur des disquettes, etc. À l'époque, c'était encore les disquettes. Et à partir de ça, on s'est mis à travailler. Alors comment on a travaillé? On a vérifié s'il y avait vraiment quelque chose. Bon. Donc l'idée, ça a été sortir et étudier plus spécialement tous les HLM, les immeubles municipaux et les immeubles liés à la famille Tiberi et à leurs proches. Alors, on a sorti ces listes d'électeurs, sur des feuilles 21, 29, 7, on a sorti le nom, le machin, etc., l'adresse et tout. Et après, on est allé vérifier sur place. C'est-à-dire sur les boîtes aux lettres, si les gens habitaient bien l'adresse indiquée. Alors là, il y en avait. De toute façon, il y a forcément des gens qui n'habitent plus à l'adresse indiquée parce qu'il y a des changements, des gens qui déménagent, etc., des erreurs sur les boîtes aux lettres. Bon, il y en a forcément. Et donc, pour avoir une comparaison, on a pris, je me rappelle par exemple, sur la rue Poliveau, qui est riche en HLM, on avait pris toute la rue Poliveau.
Oui.
Toute la rue Poliveau. Et on avait pris à la fois les immeubles HLM et donc des immeubles qui n'étaient pas HLM. On voulait voir s'il y avait une différence. Et donc, pendant 3 mois, on a fait, enfin, j'ai fait que ça avec une pigiste qu'on avait embauchée pour l'occasion. On a fait vraiment.
C'était éplucheur.
Éplucheur, boîte aux lettres, travail vraiment. Ouais. Et on a vu qu'il y avait effectivement des différences très importantes. On avait dans des immeubles HLM, il y avait 50%, 60% de gens qui n'habitaient pas à l'adresse indiquée, alors qu'il y en avait 15 ou 20 dans les autres immeubles.
Pardonnez-moi de vous bousculer un peu, parce que le temps n'est pas... On n'a que 20 minutes, mais au bout du compte, vous arrivez à combien de faux électeurs présumés?
On arrive à plusieurs milliers, mais la suite est quand même, je vais être rapide, mais c'est intéressant.
Pardon, allez-y.
Une fois qu'on avait ces bases d'électeurs, on se trouvait effectivement avec plein de noms de gens, ça collait pas. Mais après tout, il pouvait y avoir quelque chose qu'on voyait pas, qui pouvait expliquer toutes ces erreurs. On a lancé une opération de téléphone. À l'époque, c'était plus facile en 97 parce qu'il y avait moins de portables, donc les gens étaient plus sur l'annuaire. On a passé plusieurs milliers de coups de téléphone. Et là, on a eu effectivement les gens qui nous ont dit, ah bah oui, effectivement, c'est Madame Tibéri qui me l'a demandé. Et donc, on avait des gens qui en fait habitaient dans le 20e arrondissement, parce que ces gens-là, on les a retrouvés dans le 20e, en banlieue, voire en province. Et avec ça, effectivement, on est arrivé à un chiffre de plusieurs milliers.
Mais plusieurs milliers, ça veut dire quoi? 3000? 2000? Alors, 4000?
En gros, entre 2005 et 4000.
D'accord. Alors que l'enquête, elle retient 800.
Oui, mais l'enquête retient 800.
Je dis pas que l'enquête a raison de vous
dire. Non, c'est pas ça. On peut pas comparer les deux chiffres. C'est-à-dire que l'enquête judiciaire, eux, ce sont des gendarmes qui ont fait l'enquête. Ouais. Eux, ils ont besoin de preuves judiciaires. Ça veut dire qu'ils ont dû non seulement enquêter soigneusement sur chaque électeur, mais les entendre faire des auditions, des témoignages, des contre-témoignages, etc. Le travail d'un journaliste, c'est pas le travail d'un juge. Donc, ce n'est pas le même travail. Eux, ils avaient besoin de preuves judiciaires. Nous, on avait besoin de preuves journalistiques. C'est pas la même chose.
Absolument. Donc, il faut plus de 3 ans aux enquêteurs pour publier un premier rapport sur l'affaire. Donc, il est publié en mai 2000. Il accable effectivement le maire de Paris d'alors, monsieur Tibéri. Pourtant, le Conseil constitutionnel, lui, n'invalide pas son élection au prétexte qu'il n'y aurait au final que 800 faux électeurs. Un nombre qui, selon les sages, ne suffit pas à changer potentiellement le résultat final du scrutin. En gros, on marche sur la tête, hein. Vous avez le droit de frauder, mais alors, pas trop, hein, dans des proportions raisonnables. C'est ça, en fait.
C'est le Conseil constitutionnel de l'époque. Je suis pas sûr que le Conseil constitutionnel d'aujourd'hui dirait la même chose. Le Conseil constitutionnel a toujours été, enfin, en tout cas, à l'époque, était très frileux pour revenir sur ce genre de choses. Mais il y avait des gags, quand même, il faut le dire, dans ces histoires de faux électeurs. On a trouvé, moi, je me rappelle avoir trouvé un immeuble qui était rue Claude Bernard, qui appartenait à un proche de Tibéri. Il y avait 97% de faux électeurs dedans. En fait, c'était des employés de la voirie de la ville de Paris, qui travaillait dans la, donc avec qui faisait les ramassages des poubelles, et qui n'avaient jamais habité bien sûr de leur vie dans le 5e arrondissement, mais on les avait mis là-dedans. On avait aussi trouvé, en regardant les listes électorales, un nombre de centenaires absolument incroyable. Il y avait des gens qui avaient 130 ans ou 140 ans dans les listes électorales. Bon. Et alors, on n'a pas pu voir si ces gens-là avaient voté dans le passé, parce que les bulletins, les listes d'émargement sont détruites. Hein. On ne peut pas regarder les listes d'émargement d'il y a 10, 20 ou 30 ans. C'est pas possible. Mais vous aviez quand même des choses hallucinantes de ce genre-là. On a même trouvé des gens qui avaient des doubles inscriptions. Je me rappelle d'une dame qui votait dans le 15e arrondissement. Et quand je l'ai appelée en lui disant « Mais madame, vous votez aussi dans le 5e », elle m'a dit « Mais comment ?» Donc ça veut dire qu'elle était à son insu. Elle a porté plainte, d'ailleurs, elle s'est portée partie civile dans l'affaire, je crois.
Bien, Hervé Liffrand, on va continuer cette conversation, bien sûr. On se retrouve dans 3 minutes, hein, le temps d'écouter Rachida Yaraya.
Shadow.
Évidemment, Tibéri profite de la protection de l'Élysée, puisque vous le dites vous-même, c'est une stratégie globale. Hein, à partir de 88, il faut reconquérir. Mmh. Donc il se croit certainement en pleine impunité, protégé. Et puis arrive 2001. Alors en 2001, Paris passe à gauche. Hein, c'est l'élection de Bertrand Delanoë. Dans le troisième arrondissement, c'est symptomatique, on en a parlé tout à l'heure, Pierre Edenbaum, le socialiste, bat les Dominati.
Oui, alors il le bat... C'est un bataille, enfin bon. Pardon, il le bat dès 95. Hein.
Dès 95.
Mais c'est là... dès 95, il y a un changement. Ça, c'est lié à une autre affaire qui a vraiment fait mouche à ce moment-là. Non, pas seulement au troisième, mais c'est l'affaire des logements de faveur.
Ouais, d'accord. Alors vous avez raison de préciser les choses, j'en viens quand même à ma question. Est-ce qu'en 2001, il y a un besoin de gauche, de la part des électeurs parisiens, ou un besoin de nettoyer les écuries d'Augiras, là?
Bah, je crois qu'il y a, bon, le besoin de gauche, je sais pas, le besoin de faire le ménage, ça paraît assez évident, parce qu'il y avait eu tellement d'affaires, parce qu'il y avait les faux électeurs, vous aviez les frais de bouche, c'est sorti après, l'histoire des frais de bouche, mais les fausses factures, il y avait tout était, c'était dans la mairie de Paris était un monde fantomatique dans lequel tout, j'allais dire, tout était fictif. Les emplois, les électeurs, les logements étaient réellement attribués, mais c'était des dossiers truqués pour donner des logements à des gens qui avaient pas droit. Tout fonctionnait comme ça. Même la pompe à essence de l'hôtel de ville, ses comptes étaient fictifs puisque les adjoints, les directeurs, etc., allaient faire le plein à la veille du week-end. Tout marchait comme ça.
Pourquoi? C'était la mairie de Paris, une sorte d'état dans l'état, ou une sorte de zone de non-droit, presque?
C'était un état qui préexistait à l'arrivée de Chirac en 1977, mais qui après a été, j'allais dire, développé, rationalisé, à un point qui donne le vertige. L'histoire des faux électeurs, c'est quand même une histoire extraordinaire. Quand on voit avec Xavier Tibéri qui recevait les gens en leur disant vous voulez une place dans les crèches, et voilà, lier ça au fait d'aller voter, d'être inscrit sur les listes du cinquième.
Apparemment, chacun son rôle à cette époque. Hein. Jean Tibéri était là pour jouer les relations publiques avec la population, les médias. Xavier, son rôle était de cadenasser les listes électorales à la mairie. Il ne pourrait pas faire un parallèle avec les Balkany, par exemple.
Est-ce que c'est la même façon? C'est pas pareil, parce que j'allais dire il y a un côté flambeur chez les Balkany, qu'il y a pas chez les Tibéri. Chez les Tibéri, c'est un peu plus, il y a un peu plus ce côté épicier qu'on trouve pas chez les Balkany. Tibéri, c'était le petit chose à l'hôtel de ville, hein, mais qui a réussi à devenir maire. C'est pas Balkany, c'est encore autre chose.
D'où vient cette tradition des affaires judiciaires, de cette corruption qu'on voit quasiment depuis le début de la Ve République, chez tout le monde, mais particulièrement chez les héritiers du gaullisme?
Il y avait le gaullisme immobilier au début de la Ve République, hein, avec les grandes affaires dont Canard d'ailleurs avait parlé à l'époque, l'affaire Aranda par exemple, l'affaire de la garantie foncière, des choses comme ça. C'était des grandes affaires du gaullisme. Et il y avait officiellement le général ne s'occupait pas de l'intendance, mais autour de lui ça grenouillait sec, ouais. Comme on l'a pu le voir dans ses affaires. Et alors aussi il y a aussi une chose qui a joué, mais qui a joué à gauche comme à droite, il y a la décentralisation. Je ne dis pas que la décentralisation était une mauvaise chose, mais elle n'a pas été forcément très bien préparée, bien encadrée, ce qui fait que du jour au lendemain...
Ça a ouvert les vannes. Alors, à cette affaire de faux électeurs, c'est aussi ajouté celle de l'office HLM de la ville de Paris, celle des emplois fictifs, vous l'avez fort justement rappelé. Alors, parmi ceux qui prennent position contre Jean Tibéri, à l'époque, il y a un certain François Fillon, alors candidat à la présidence du RPR. Il est interviewé dans la rue par une équipe de France 2, écoutez.
Il y a au RPR des milliers de militants, des milliers d'élus qui respectent la loi et qui veulent encore une fois être fiers de leur parti. Eh bien, ceux qui ne l'ont pas respecté doivent être exclus. C'est la règle et c'est celle dont nous nous sommes dotés, c'est celle que moi je ferai respecter.
Hervé Liffrand, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah, ça me fait rigoler.
C'est un peu cruel, mais bon.
C'est un peu cruel, effectivement. Comme quoi, on parle toujours trop. C'est amusant.
On va écouter maintenant le reportage de notre reporter Gaylor Van Wimersch. Il s'est rendu dans le 5e arrondissement de Paris en compagnie de Benjamin Sbriglo, un ancien élu d'opposition à la mairie du 5e, à la recherche justement des fantômes, des faux électeurs. Ce que vous allez entendre est à la fois drôle et édifiant. Et je précise, c'est important, c'était en janvier 2015.
Bienvenue sur le Tibéri Faux Électeur Tour, à la recherche des électeurs fantômes du 5e arrondissement. Nous voilà en face de la mairie du 5e arrondissement de Paris. À droite de la mairie, on a le panneau sur la façade d'affichage municipal où on peut voir une grande affiche qui traite des inscriptions sur les listes électorales à Paris. Et on peut lire: l'inscription sur les listes électorales est obligatoire et indispensable pour pouvoir voter. Il y a une petite annotation sur les infractions en matière d'inscription. Toute personne qui aura demandé et obtenu une inscription irrégulière s'expose aux sanctions pénales jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. On est face au Panthéon, le monument des grands hommes, et on est avec vous, Benjamin Sbriglo. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un ancien collaborateur de Line Cohen-Solal, qui était l'adversaire socialiste de Jean Tiberi lors des élections législatives de 1997. Je vous ai convoqué aujourd'hui parce qu'on va partir sur les traces des électeurs fantômes du 5e arrondissement.
Oui, on pourrait même en faire un roadshow, c'est peut-être une idée touristique pour les étrangers qui viennent à Paris. On va faire la tournée du 5e, effectivement.
On est parti ?
On y va.
Là, on est sur cette place du Panthéon, face à la mairie. Et là, très rapidement, on va tomber sur un premier lieu, qui est un hôtel, l'hôtel des grands hommes.
On s'est aperçu que dans l'hôtel était domicilié un certain nombre d'électeurs permanents, d'habitants permanents.
J'ai relevé 11 faux électeurs ici dans cet hôtel.
Personne n'est censé y vivre. D'ailleurs, nous, on a fait un travail vraiment très minutieux. Donc tous les lieux où on a identifié qu'il y avait des anomalies, on est allé voir, on est allé vérifier. On a un vrai travail d'enquêteur. On a commencé, on a réuni nos outils. La liste électorale, principalement, qu'on a eu au passage un mal fou à obtenir parce que Tiberi ne voulait pas nous la filer. Et avec la liste, on a pointé immeuble par immeuble. Et imaginez qu'à l'époque, il n'y avait pas Google et la map Google. On était obligé de faire du travail de terrain, c'est-à-dire d'aller à chaque adresse, de vérifier chaque adresse, les boîtes aux lettres.
Il y a une plaque devant, et c'est marqué 1919-1989. Dans cet hôtel, au cours du printemps 1919, André Breton et Philippe Soupeau ont inventé l'écriture automatique et donné naissance au surréalisme. Par contre, il n'y a pas de plaque pour marquer ici, entre 1989 et 1997, 11 séjournées, 11 faux électeurs de Jean Tiberi.
Oui, c'est une forme de surréalisme aussi, surréalisme électoral. On peut peut-être leur proposer de poser une plaque.
Par là ou par là?
Par là.
Rue Mouffetard. 47 boulevard Saint-Germain. Dizaines de faux électeurs. 65 rue Galland. 17 personnes inscrites frauduleusement. 19, 25 rue Geoffroy Saint-Hilaire. 83 personnes. 40 rue Poliveau. 76 faux électeurs. Mairie du 5e arrondissement. Une dizaine de faux électeurs inscrits comme habitants dans la mairie.
Il y avait à la mairie du 5e, le gardien de la mairie du 5e, il avait un registre. À chaque fois qu'il y avait n'importe qui rentrait dans la mairie, il notait sur son petit registre en bon fonctionnaire. Figurez-vous qu'à chaque fois que Madame Tiberi venait en dehors des heures d'ouverture de la mairie, eh bien, il notait 0h40, arrivée de Madame Tiberi accompagnée de Monsieur Untel, Madame Untel, Madame Untel, monte au bureau des élections. Bon. 2h55, Madame Tiberi accompagnée de redescend du bureau des élections. Le système était vraiment organisé, c'est-à-dire qu'il y avait quasi quotidiennement des visites nocturnes, parfois très tard dans la nuit, pour aller faire la cuisine locale. On est dans du vaudeville. Et on va arriver rue Poliveau. Quasiment l'ensemble de la rue, ce sont des immeubles sociaux de la ville. Et comme on ne pouvait pas obtenir à l'époque d'appartement social sans passer par le couple Tiberi dans le 5e, que des amis. Il y a en fait une école dans laquelle il y a deux bureaux de vote, et les deux bureaux de vote représentent deux trottoirs de la rue Poliveau. Le trottoir des numéros pairs, où vous avez exclusivement des logements sociaux, là, Jean Tibéri faisait 80%. Et le trottoir des numéros impairs, dans lesquels vous n'avez pas de logements sociaux.
Là, à notre droite, oui, c'est les immeubles haussmanniens.
Il faisait plutôt moins que ce qu'il faisait sur le reste de l'arrondissement. Voilà, il y avait un genre de microclimat comme ça sur.
Sur le numéro pair de la rue Poliveau.
Ça, c'est le 69, en fait, de la rue Buffon.
Là, on se trouve rue Buffon. Et on a quoi face à nous ?
C'est une parcelle qui n'est plus habitée. On voit ici l'appentis d'une cabane, là. On voit le toit d'une petite cabane qui est de l'autre côté d'un mur, avec une porte, porte de jardin.
Il y a un petit mur qui fait un peu plus de 2 mètres de haut, une porte de jardin, et derrière, des arbres, et le toit qui dépasse d'un petit cabanon.
Et ben donc là, ici, il y avait bien une quinzaine d'électeurs inscrits dans le cabanon, si vous voulez. Ça nous avait quand même beaucoup amusés. On était vraiment arrivés au bout du truc.
Du surréalisme.
Au bout du surréalisme.
Alors on peut peut-être frapper, ils sont peut-être encore là, ces 15 électeurs. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ?
Ils ont été condamnés, hein, le dernier recours près de la Cour de cassation n'a pas fonctionné. On peut rappeler les condamnations des Tibéri, hein, des deux.
Oui, alors ce qui est, une fois de plus, on voit que dans ces affaires, la justice a été extrêmement lente.
18 ans,
pas mal. Ça a mis 18 ans, c'est à peu près pareil pour l'affaire du 3e arrondissement. Alors c'est vrai que ce n'est pas des dossiers simples, mais enfin, quand même, on voit qu'il y a des juges qui ont été embêtés, qui se sentaient gênés. Ils ont quand même refusé à chaque fois, le parquet ne voulait pas que l'affaire soit traitée avant les élections municipales.
Ben voyons.
Ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que les électeurs ne pouvaient pas savoir avant de passer aux urnes si leur élu était coupable ou pas coupable. C'est quand même de fraude électorale, ce qui est quand même très grave. Donc enfin, il y a eu quand même des choses un peu bizarres. Alors finalement, effectivement, ils ont été condamnés une première fois. Ils ont été condamnés après en appel en mars 2013. Et leur pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation en 2015. En 2015, donc les condamnations, c'est 10 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Donc pour Jean Tibéri, Xavier, elle a eu 9 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende.
Bien.
Et 2 ans de privation des droits de vote.
Voilà, et 2 ans de privation des droits de vote. La boucle est bouclée. Merci Hervé Liffrand pour toutes ces précisions que vous avez apportées, vous, en tant qu'enquêteur dans cette affaire, pour Le Canard Enchaîné. Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les faux électeurs du 5e arrondissement de Paris. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons la fabuleuse aventure du navigateur Bernard Moitessier.